Bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous avec les auditeurs, à votre avis, donc sur VOA Afrique. Et aujourd'hui, on va parler donc de cette nouvelle affaire au Nigeria, la police qui a libéré 259 personnes d'une maison dite de correction islamique dans le sud-ouest du pays. Le porte-parole de la police décrit des conditions difficiles pour les personnes qui étaient détenues dans cette maison. Depuis septembre, une dizaine de raids similaires ont été menés dans ces maisons de correction religieuse au Nigeria, ce qui a permis de libérer plus de 1000 personnes. Dans tous ces cas, la police retrouve des personnes enchaînées, affamées et maltraitées. Alors, nous allons parler de ce phénomène. Que font les autorités? Que pensez-vous de cela? Et comment fonctionnent ces institutions religieuses? Je rappelle le numéro pour participer, 001-202-205-26-33. Christian Djerabé, vous êtes au Tchad, vous êtes déjà en ligne. Christian, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Afrique.
Alors, vous dites que les autorités doivent s'impliquer davantage, n'est-ce pas?
Oui, il faudrait que les autorités multiplient les patrouilles ou les fouilles dans des maisons et des maisons de correction. Parce que derrière cette maison, on entend autre chose. Il faut voir que nous sommes menacés par le terrorisme. Et s'il faut laisser des jeunes enchaînés ou bien caserés dans une maison sans contrôle, c'est vraiment une menace pour l'État.
Ce n'est plus une école coranique, hein, dans ce cas.
Oui, l'école coranique, il faut surveiller de près parce que c'est dans les écoles coraniques qu'on forme aussi les terroristes. Il ne faut pas dire que dans toutes les écoles coraniques, on forme des bons croyants. Il y a aussi ceux qui se cachent derrière l'école coranique pour former des terroristes.
D'accord. Et au Tchad, un peu comment ça se passe, la gestion de ces écoles?
Oui, avec la montée du terrorisme, le gouvernement a fermé certaines écoles coraniques. Donc, juste une mesure qui a été prise pour freiner l'enrôlement des jeunes dans le terrorisme.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Christian, de nous avoir appelé depuis. Vous êtes en N'Djamena, n'est-ce pas? Voilà. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Christian. On a Conan Félix Conan depuis la Côte d'Ivoire. Conan?
Oui.
Donc, vous condamnez violemment ces pratiques. Si je m'en tiens aux commentaires que vous avez faits sur Facebook.
Oui, tout à fait. Bonsoir, M. le journaliste. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs de la VOA.
Bonsoir.
Donc, comme je le disais, cette pratique-là, elle déshonore la race humaine. C'est une aberration, une maltraitance qui ne dit pas son nom. C'est de l'esclavagisme. Comment prétendre éduquer des enfants et les opprimer? Donc ça, l'erreur incombe aux autorités nigériennes qui, normalement, avec l'existence des services de renseignement, qui sont les yeux et les oreilles des autorités, ils n'arrivent pas à avoir connaissance de l'existence de cette type d'école-là. Donc, normalement, les écoles ne devraient même pas exister parce qu'elles sont illégales, elles ne sont pas régies par aucune loi.
D'accord.
Elles ne sont pas régies par aucune loi.
Et en Côte d'Ivoire, est-ce que les autorités gardent un œil sur ces écoles? En fait, sans faire de la stigmatisation, hein, ces écoles ont formé des bons citoyens, mais c'est peut-être dernièrement, on a vu des écoles qui enseignent autre chose et qui se livrent à certaines pratiques.
Bon, à ma connaissance, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'il y ait l'existence de telles écoles. Donc, Dieu merci.
Les écoles coraniques, il n'y en a pas?
Oui. Si, il y a des écoles coraniques, mais des écoles qui dérogent le droit de éduquer les enfants d'une autre manière, par la violence, par la pression physique. En Côte d'Ivoire, je ne crois pas qu'il y ait l'existence de cela.
Super, alors. Merci beaucoup, Conan Félix Conan, depuis la Côte d'Ivoire. On me dit qu'on a Thierry à Bujumbura. Thierry, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir, très auditeurs.
Oui, et quelle est votre lecture de ce qu'on a constaté dernièrement, surtout au Nigeria, avec toutes ces maisons dites de correction que les autorités sont en train de démanteler?
Écoutez, monsieur, tout d'abord, vraiment, ça me paraît un petit peu absurde d'entendre qu'il y a quelqu'un qui peut prendre comme un prétexte une idéologie religieuse. C'est vraiment quelque chose d'incompréhensible, parce que nous sommes prêts pour deviner. Donc, enseigner à un enfant de se radicaliser, enseigner à un enfant que tu es beaucoup d'oja, c'est ça qui vous permettra peut-être de poser le pied dans le royaume des cieux. Là, je trouve que nous ne sommes plus des humains, nous sommes plutôt des sauvages. Et c'est pourquoi nous trouvons que, pour la plupart des fois, dans les gens qui commettent, qui sont responsables des attaques djihadistes, sont toujours des gens qui ont un lien étroit avec surtout la religion musulmane. Je ne condamne pas la religion musulmane, mais en tout cas, nous avons vu dans beaucoup de cas que les gens qui revendiquent les attaques sont pour la plupart des fois des gens qui ont des liens étroits avec l'Église musulmane. Et c'est pour cette raison que j'appelle tout d'abord les autorités, surtout les autorités de l'Église musulmane, une des autres églises, de collaborer étroitement avec les autorités. Parce qu'il est difficile de pouvoir contrôler tout ce qui se fait dans ces maisons. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles, même à Bujumbura, nous avons des écoles coraniques.
Les écoles coraniques ne veulent pas forcément dire former des terroristes. Hein. Moi, j'en connais, je suis du Sénégal.
C'est ça, monsieur. Mais c'est difficile de contrôler. C'est difficile de contrôler, c'est pourquoi peut-être il faut que les autorités de ces églises se mettent ensemble avec les autorités étatiques pour pouvoir peut-être voir ce qui pourrait se faire dans le cadre de pouvoir lutter contre le radicalisme.
Le radicalisme.
Je ne crois pas que si les gens ne comprennent pas que chacun a une carte à jouer, en tout cas, on ne pourra pas s'en sortir.
Mais c'est là, dans ces cas-ci, c'est plutôt de maltraitance dont il est question. Ce sont des personnes qui sont pratiquement prises en otage ici. Au-delà même de ce que vous dénoncez, c'est plutôt la maltraitance de ces personnes-là.
Ces personnes sont maltraitées généralement par qui? Normalement, ce sont des gens qui devraient être maltraités par des malfaiteurs. Mais est-ce qu'au sein des églises, y a-t-il des malfaiteurs? C'est ça alors que les autorités religieuses pourraient peut-être nous aider à pouvoir dénoncer.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup Thierry depuis Bujumbura. Nous avons Arona Baldé à Dakar. Arona, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les États de la Voix d'Afrique.
Alors, vous parlez de traitement inhumain.
Oui, exactement. Moi, c'est pas l'enseignement radical qui est ici au Sénégal, mais le problème est qu'aujourd'hui, on voit les enfants sont très mal traités ici au Sénégal, surtout dans les écoles d'enseignement coranique, parce qu'ils sont faits de manière frauduleuse, en quelque sorte. Les enfants sont souvent envoyés par les parents qui sont, par pauvreté, je ne sais pas par quoi. Ils les envoient des marabouts ici, à Dakar, ou dans les grandes villes. Et ces enfants-là, tu les retrouves dans la rue en train de se manger.
Et
ça, quand ils regardent leur peau, tu vois qu'il y a des sentiments corporels vraiment qui sont inhumés en quelque sorte. Et tu te demandes vraiment si l'enfant méritait cela. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités, comme ils l'avaient entamé à le faire au début, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi par rapport à cela, parce que les autorités ont cette volonté de réduire les enfants.
Ils avaient décidé d'interdire la mendicité des enfants dans les rues de Dakar. Mais qui n'est pas suivi des faits.
Malheureusement, il n'y a pas de suivi parce que de plus en plus, on voit que le phénomène est en train d'être multiplié en quelque sorte. Les parents continuent à envoyer leurs enfants vers la capitale. Et vraiment, c'est déplorable parce que l'enfant aujourd'hui, il est mis dans des conditions néfastes. Il y a des conditions. Par exemple, je vais vous donner un exemple. L'enfant est demandé de partir dans la journée, d'amener parfois un kilo de riz, ou 2 kilos de riz pour vraiment.
Ou 500 francs. Du marabout.
Oui.
Ou de l'argent.
Ou de l'argent, en quelque sorte. Imaginons si l'enfant n'a pas eu vraiment ce qu'on lui a demandé. Parfois, il est obligé d'aller voler. Et imaginons toutes les conséquences que l'enfant va rencontrer. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités devraient avoir un œil sur vraiment les écoles pour Anitomaya Pass.
Voilà, un autre aspect. Voilà, merci beaucoup, voilà, Arona. Merci. Voilà, vous évoquez un autre aspect de la question. On a Justin au Togo. Justin, bonsoir.
Oui, allô.
Oui, on vous écoute. Vous pensez que le gouvernement doit faire plus?
Oui, je disais le gouvernement doit faire plus parce que si nous parlons d'une école, normalement, le ministère de l'éducation doit veiller à cela, doit au moins chaque fois passer dans... Souvent, je sais que pour installer une école ou bien pour créer une école, il faut des formalités, il faut des choses, il faut des mesures et des conditions. Mais si l'État ne permet pas, il permet à ce qu'on crée des choses dans le cachet et maltraiter les enfants, c'est que l'État ne veille pas à cela. Donc il faut que l'État trouve des moyens pour pouvoir au moins passer dans ces centres de détention-là pour voir qu'est-ce qu'on fait avec les enfants là-bas. L'État doit faire ça. Parce que on parle d'éducation.
On parle d'éducation, pas de maltraitance, pas de traite des humains.
Oui, effectivement. Donc si ce centre-là, c'est soi-disant le centre d'éducation des enfants d'une personne, c'est qu'il faut un accompagnement de l'État. Il faut que l'État veille parce que les choses se passent bien. C'est ce que moi je vois ça. Et en plus, il se prend, ne serait pas aussi ça, et seulement les écoles coraniques. Il y a aussi d'autres centres comme ça, surtout la création de multi-églises actuellement. Il y a ces choses qui se passent dans ces églises-là comme ça.
Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Justin, depuis le Togo. On a Don Jonas Kainda à Mbujimayi, c'est en RDC. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur, bonsoir, chers auditeurs de VOAfrique. Je suis Dom Jonas Kainda. Oui, mon avis, moi je trouve qu'il faut que le gouvernement, que les autorités réglementent le fonctionnement de ce système-là. Parce que c'est un système qui nous amène le terrorisme. Parce que une personne qui est maltraitée, qui est gardé affamé, qui est enchaîné. Donc, elle est prête à porter des gilets, des engins explosifs, hein, comme je l'ai dit dans mon commentaire, est toujours prête à porter ça. N'importe quoi. Tout ce qu'on va lui demander, il doit toujours s'écouter. Parce qu'il n'a pas de choix.
D'accord. Merci beaucoup, Dom Jonas Kainda, depuis Mbujimayi. Nous avons Adama Togola au Mali. Adama?
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Alors, effectivement, je salue d'abord tous les auditeurs et tous les auditrices de la VOA.
Merci.
Je pense que cette situation même est très, très dramatique, hein. Notamment ça, c'est l'esclavage moderne. Aucune religion, à mon avis, n'autorise vraiment cette pratique honteuse. Je pense que ce qui se passe au Nigeria, donc, n'est pas seulement, ça ne se passe pas seulement au Nigeria, mais un peu partout, même si, en réalité, donc, les pratiques sont plus accentuées dans certains pays par rapport à d'autres. Moi, je pense que ce qui se passe là-bas, faut qu'on, en toute franchise, donc nous ne devons pas accepter cette situation, donc qui a comme conséquence le terrorisme. Je pense que abandonner les enfants, ça revient un peu donc à toucher avec aux pratiques qui font vraiment les parents même de son enfant.
La négligence.
Donc, qui abandonne. Oui, la négligence, parce que qui abandonne ses enfants. Donc, en Afrique, on dit les enfants de la rue, alors qu'en réalité, les rues, même moi, la rue, même l'enfant de pas. Donc, c'est les responsabilités, je dirais,
justement,
des parents, donc, qui envoient,
Adama,
qui envoient leurs enfants.
Justement, dans votre commentaire, hein, vous mettez l'accent sur un point important qu'on n'a pas abordé jusque-là, c'est le rôle des parents, de la famille. Et vous tapez aussi un peu sur le gouvernement, si je peux me permettre ici, mais vous insistez beaucoup sur le rôle des parents, ce qui est aussi très important.
Oui, effectivement, sur le rôle des parents, parce qu'on a l'habitude d'en parler ici, partout que, voilà, c'est les enfants de la rue, c'est les enfants de la rue, alors que la rue même n'enfante pas. C'est pour vous dire que c'est l'irresponsabilité même de faire des parents, donc qui abandonnent leurs enfants là en donnant même à ces maîtres-là, à ces maîtres coraniques, etc. Donc, pour qu'ils permettent vraiment tout. Et pourtant, si les mentalités même sont assujetties jusqu'à un certain point, donc c'est très facile maintenant d'envoyer, même de transformer ces enfants-là donc, aux terroristes, donc, pour vraiment réunir la terreur, puisqu'ils n'ont pas la faculté. Donc, quelqu'un qui accepte en réalité d'être étudié à certaines pratiques, au coup de pied, donc en enchaînement, voilà, au temps des esclavages. Donc, je dirais qu'en réalité, ces enfants-là, donc, que nous voyons tout le temps, donc, sont vraiment des futurs terroristes au milieu de Boko Haram, des organisations comme Migao, etc. Donc,
Merci beaucoup, Adama, pour ce point de vue. Nous avons Moussa Karim au Togo. Moussa, bonsoir.
Oui, c'est Moussi Karim.
Ah, bonsoir. Moussi, excusez-moi, Moussi Karim.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Effectivement, comme je l'avais mentionné dans mon commentaire, comme on parle des attaques des gens de terrorisme au Nigeria, donc souvent on a allusion à Boko Haram. Donc Boko Haram, c'est un secte islamique qui est installé au Nigeria. Mais comme d'habitude, on a l'habitude de remarquer que le matériel de Boko Haram est des martyrs occidentaux. Donc les occidentaux sont là à dire que Boko Haram, c'est un secte à bannir, à tout ça là, on doit lutter contre Boko Haram. Alors qu'on voit que c'est les Européens, c'est les occidentaux, même si les livres le matériel.
Moussi, est-ce que ces enfants sont aussi des victimes, hein? Ils sont enchaînés, affamés, on doit les aider aussi. C'est vrai que la société perd beaucoup et il y a les risques de terrorisme, mais ce sont des enfants qui ont besoin d'aide.
Comme mon président vient de le dire, ce sont les enfants de la rue. Donc, pour les aider, peut-être que c'est un monsieur qui l'a amené, utiliser le courant, faire tout ça là. Donc, aider l'enfant pour son avenir, quoi.
D'accord.
C'est un truc comme ça qui peut amener des fois les enfants. Des fois, ce n'est pas les parents eux-mêmes qui envoient les enfants. Donc, un enfant de rue, c'est un orphelin. Donc, c'est un oncle.
Mais beaucoup ne sont pas des parents, des enfants de rue, ils sont envoyés par les parents eux-mêmes. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Allez-y.
On a l'habitude que l'islam, c'est une religion qui est mal vue par beaucoup de personnes, quoi. Donc les gens sont en train de mettre les bâtons dans la roue de la religion, là, parce qu'on sait que la religion, là, c'est une religion qui sert de solidarité et de la paix. Mais les gens, entre eux, ils interprètent ça de leur manière. Donc pour créer une division au sein de la société africaine.
D'accord. Merci beaucoup, Moussi. Nous avons Jim Rangar Théodoum Osana. Depuis N'Djamena, c'est ça?
Oui, depuis N'Djamena. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Bonsoir, on vous écoute.
Moi, je pense que la responsabilité dans cette situation, que ce soit du côté des parents ou des autorités. Et tout d'abord, la religion ne prône pas la maltraitance. Et donc, ces chefs religieux sont en violation. Et c'est inacceptable que ces gens continuent de maltraiter les enfants innocents. Donc, les autorités doivent prendre des mesures pour essayer de protéger la vie de ces enfants qui est vraiment en danger. Alors, et j'interpelle aussi les parents qui font
Osana, tout le monde est d'accord que en fait ces pratiques sont aux antipodes de la religion, mais pourquoi ces pratiques persistent-elles pour vous?
C'est là où je dis que ces gens qui se disent des chefs religieux sont de mauvaise foi. Et là, il est de la responsabilité de l'État ou des gouvernements de prendre des sanctions pour essayer de mettre fin à cette pratique. sinon je crois que cette éducation même là ne profite pas à ses enfants, parce que cela ne va pas produire des rêves dans le sol. Donc les parents doivent plutôt envoyer leurs enfants dans des écoles qu'on a souvent à penser que c'est l'école des occidentaux. Donc je pense que les autorités doivent se mettre en première ligne pour essayer de prendre surtout des mesures sévères pour à l'encontre de ces chefs pour
d'accord. Merci beaucoup. On va rester au Tchad avec Goni. Goni, n'est-ce pas? Vous êtes en ligne. Goni?
Oui,
allez-y, on vous écoute.
En fait, si c'est pour parler de la religion, vraiment, il faut être sérieux dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre tel que le conseil d'affaires. Conseil des affaires étrangères, par exemple, ils doivent vraiment se mettre dans la chose et respecter les droits de l'homme, ce qui est beaucoup plus en Islam.
Respecter les droits de l'homme. Malheureusement, la ligne n'est pas très bonne, mais on a compris, il faut respecter les droits de ses enfants. Et dans votre commentaire, vous dites, parler de l'islam, c'est parler de paix. Donc, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans ces institutions dites de redressement. Asmaïlou au Togo, vous êtes en ligne?
Bonsoir,
on vous écoute.
D'abord, je vois que les autorités aussi laissent passer, laissent tout faire aux chefs religieux. Et parfois, certains de ces chefs religieux dévient l'éducation religieuse à leur manière pour juste mener leur civisme qui n'est pas adaptif à la société.
D'accord. Merci beaucoup. On va rapidement au Burkina retrouver Alassane Ouedraogo. Alassane.
Allô, bonsoir, Véroa.
Bonsoir, on vous écoute.
Allô?
Vous êtes en ligne?
Que, comme je l'ai dit dans mon poste, je pense que ça, c'est une pratique esclavagiste. Mm-hmm. Et quand vous parlez d'institution, pour moi, ce n'est pas une institution religieuse. Allô?
Oui, on vous écoute. Vous dites que c'est une pratique esclavagiste.
Voilà, esclavagiste. Et quand vous l'avez mentionné dans votre titre, que ce sont des institutions religieuses. Et pour moi, ça ne l'est pas parce que quand on parle d'institutions religieuses, ça implique plusieurs acteurs dans le processus. C'est-à-dire les éducateurs, les apprenants et les parents, en fait, de ces apprenants. Et pour moi, les autorités doivent en tout cas lancer une vaste opération d'identification, de repérage de ces institutions que vous dites religieuses là.
On doit savoir ce qu'ils font.
Allô?
Oui, les autorités doivent être en mesure de savoir ce qui se fait dans ces centres-là.
Oui, non. Pour moi, ils doivent lancer une vaste opération d'identification de ces centres-là.
Tout à fait.
Pour permettre au grand public vraiment de collaborer.
D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, on prend peut-être notre dernier auditeur, Aziz Younga, toujours au Burkina Faso. Aziz, bonsoir.
Bonsoir, Vio Afrique. Bonsoir à tous les auditeurs de la Vio Afrique.
Alors, vous êtes indigné par cette information, hein, le traitement inhumain, vous dites.
Oui, c'est clairement dit, c'est sur le comportement inhumain, quant à moi, que je dis. Un être normal ne doit pas vraiment traiter son semblable de cette façon-là, quel que soit alpha, sa conscience, même doit être zombie. Parce que je ne pense pas que la religion a conseillé ça. Au contraire, la religion, même, de conseiller ces arts de pratique envers les humains. Puisque la religion a établi des règles bien précises qui sont là pour permettre vraiment de régulariser la vie de l'homme de façon riche et simple. Donc, si les hommes se traitent vraiment de cette façon-là, la religion n'a aucun conseil vraiment à le mettre dans la société de traiter l'homme. Donc, voilà. C'est selon moi, c'est le comportement inhumain et que l'État vraiment doit prendre sa responsabilité et à punir ces hôtels-là à la hauteur vraiment de leur forfait.
Voilà, merci beaucoup, Aziz Younga. Et c'est ce qui met fin à ce rendez-vous, cette émission à votre avis, présentée par Abdourahmane Dia, mise en nom de Michel Joseph et Ali Jim. Dans quelques instants, une autre édition du Monde aujourd'hui présentée par John Lyndon. Excellente écoute en compagnie des programmes de VOA. Radio Afrique.